Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui à la première séance de l'année du séminaire Relire les sciences sociales, organisé par le département de sciences sociales de l'École normale supérieure de Lyon. Cette séance s'inscrit dans une longue tradition de discussions interdisciplinaires autour des grands textes, classiques ou contemporains, qui jalonnent l'histoire des sciences sociales. Aujourd'hui, il s'agira de sociologie, puisque nous discuterons de l'ouvrage fondateur de la sociologie des émotions, Le prix des sentiments, au cœur du travail émotionnel, d'Arlie Russell Hochschild, paru en 1983 et traduit pour la première fois en français cette année. Il s'agit alors d'une séance relire, puisque nous avons le plaisir d'accueillir une de ses traductrices, Cécile Thomé.
Bon, Cécile Thomé, bonjour, merci d'être avec nous. Donc vous êtes agrégée de sciences économiques et sociales, actuellement ATER en sociologie à Sciences Po Paris, spécialiste de la sociologie du genre, de la sexualité et de la santé sexuelle. Et vous êtes également doctorante de sociologie à l'EHESS et vous préparez une thèse qui s'intéresse aux effets de la diffusion de la contraception sur la sexualité et sur les rapports de genre. Donc merci d'être avec nous pour nous présenter l'ouvrage d'Arlie Russell Hochschild, son auteur, ses concepts, ses principaux enjeux pour la sociologie des émotions et les enjeux de sa traduction en français.
Donc bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci donc, aux organisateurs, organisatrices de cette séance de séminaire de m'inviter. Je suis très contente d'avoir l'opportunité de vous présenter aujourd'hui Arlie Hochschild et ses travaux, et plus précisément donc, le prix des sentiments, la traduction que nous avons effectuée avec Salomé Fournet-Fayas, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, malheureusement. Cet ouvrage dont on va parler aujourd'hui, il s'intitule en français donc, « Le prix des sentiments au cœur du travail émotionnel ». Je vous ai mis son titre anglais, « The Man at Heart », et ses trois couvertures successives, parce qu'il a déjà été réédité deux fois. Donc en 83, 20 ans plus tard en 2003, et puis plus récemment en 2012. Cet ouvrage, comme vous le disiez en présentation, c'est rapidement devenu un classique, et il a contribué à fonder un champ, le champ de la sociologie des émotions. C'est un champ qui a une large postérité et ce dont l'autrice elle-même rend compte dans la préface qu'elle a écrite à l'occasion de la nouvelle édition en 2013. Parce qu'à chaque nouvelle édition, il y a eu des préfaces ou des postfaces de rajouter qui permettent de faire le point sur l'état du champ donc en 2003 et en 2012. Ce qui est intéressant avec cet ouvrage-là, c'est qu'il n'a pas seulement été important aux États-Unis, mais aussi ailleurs, parce qu'il a été traduit avant d'être traduit en français. En Allemagne, il a été traduit dès 90, mais il a aussi été traduit en Pologne, en Chine, au Japon, en Corée. Et en France, c'est un texte qui restait donc sans traduction. Donc dans la mesure où ce ne sont pas mes travaux que je présente aujourd'hui, mais ceux d'une autrice classique, donc c'est un exercice dont je n'ai pas trop l'habitude. Donc je vais d'abord commencer par revenir sur la carrière académique d'Arlie Hochschild, afin de resituer le prix des sentiments dans le reste de sa production scientifique. Donc vous expliquer un peu qui c'est Arlie Hochschild et puis ce qu'elle a écrit d'autre, pour expliquer en quoi c'est aussi fondateur dans son parcours à elle, le prix des sentiments. Je ferai ensuite un point assez rapide sur la question de la traduction, la décision de traduction de cet ouvrage. Je terminerai en rendant compte de l'ouvrage lui-même. Et vous verrez que je vais faire beaucoup de citations pour lui donner la parole à elle, vu qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Et puis comme ça, ça nous donnera une base pour les travaux des deux personnes qui me succéderont à partir de ce travail de 83. Donc pour commencer, on va essayer de voir ensemble qui est Arlie Hochschild. Donc, je vous ai mis une photo parce que c'est quand même plus agréable de savoir de qui on parle. Arlie Hochschild, elle est née en 1940. Bon, ça vous donne une idée voilà, de son âge, de son positionnement par rapport aux autres auteurs ou autrices que vous connaissez. Et elle est aujourd'hui professeure émérite à l'Université de Californie à Berkeley où elle a fait toute sa carrière. Pour tout vous dire, moi, j'ai fait une année d'études à Berkeley et c'est là-bas que je l'ai découverte parce qu'elle y avait beaucoup lu et beaucoup enseigné, vu qu'elle y a été enseignante elle-même de nombreuses années. Elle a été distinguée à de nombreuses reprises. Je ne vais pas vous faire la fiche Wikipédia, que ce soit par ses pairs ou par la presse. Et elle a beaucoup écrit dans la presse tout au long de sa carrière. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que dans toute sa sociologie, et c'est le cas aussi dans Le prix des sentiments, c'est souvent des choses qui sont très accessibles parce qu'un des buts d'Arlie Hochschild, c'est de pouvoir être lu de manière plus large que certains ouvrages, peut-être plus théoriques et plus hermétiques. Donc le fait d'écrire dans la presse, ça s'inscrit aussi là-dedans. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, Hochschild, elle est réputée pour être une précurseuse, voire la fondatrice du champ de la sociologie des émotions aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise beaucoup son expérience personnelle pour expliquer cet intérêt pour ce champ-là, que ce soit dans les préfaces ou les introductions de ses ouvrages. Elle fait souvent allusion à sa vie à elle. Par exemple, le fait de chercher comment faire garder ses enfants, comment faire garder sa tante qui refuse d'aller en maison de retraite, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de soins aux autres ? Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très personnel à cette autrice-là. Concernant le travail émotionnel, qui est donc le cœur de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est dans son enfance qu'elle va là aussi chercher les prémices de son intérêt. Donc ce qu'il faut savoir aussi à propos de Harley Hochschild, c'est qu'elle est fille d'ambassadeur. Bon, ce qui est déjà intéressant, évidemment, en termes de reproduction sociale, ça je vous laisse, voilà. Mais c'est surtout intéressant parce que ça veut dire qu'elle a passé son enfance entourée de domestiques. À partir de ses 12 ans, son père a été en poste en Israël, en Tunisie, au Ghana, puis en Nouvelle-Zélande. Donc elle a beaucoup voyagé. Elle a donc été entourée de domestiques qui changeaient régulièrement. Et l'autre chose, c'est qu'elle a passé aussi son enfance avec d'autres ambassadeurs et à des réceptions de l'ambassade. Et ça, c'est quelque chose qu'elle explique dans sa préface. Donc là, je la laisse parler, elle. Elle écrit « Je pense avoir commencé à m'intéresser à la manière dont les individus géraient leurs émotions au moment où mes parents ont rejoint le US Foreign Service, donc l'équivalent américain du ministère des Affaires étrangères. J'avais 12 ans et je me retrouvais souvent à faire passer le bol de cacahuètes parmi des invités. Je pouvais observer leur sourire d'en bas, donc depuis son point de vue d'enfant. Et les sourires des diplomates apparaissent très différents à hauteur d'enfant. Après les soirées, j'écoutais mes parents discuter des comportements des uns et des autres. J'ai ainsi appris que le mince sourire de l'émissaire bulgare, le regard détourné du consul chinois, la poignée de main prolongée du chargé d'affaires de l'ambassade française ne relayaient pas simplement des messages d'une personne à l'autre, mais bien de Sofia à Washington, de Pékin à Paris ou de Paris à Washington. Je me demandais si j'avais fait passer les cacahuètes à une personne ou bien à un acteur. Où finit la vraie personne, où commence le jeu d'acteur et de quelle manière sont-ils liés ? Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que dès son enfance, elle a évolué dans un univers social où la représentation et la maîtrise de soi, et donc la maîtrise de ses émotions, étaient des éléments cruciaux. Je passe assez rapidement sur la suite. Après cette adolescence dans les ambassades, Hochschild est rentrée aux États-Unis pour faire ses études universitaires, d'abord en Pennsylvanie, puis à Berkeley, où elle a passé son master, puis son doctorat. Ce qui est intéressant quand même dans le fait qu'elle ait été à Berkeley, c'est qu'à la même époque, il y a quelqu'un qui est professeur à Berkeley et qui va être central dans son parcours théorique à elle, c'est Irving Goffman. Parce que Irving Goffman, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, une de ses théories, c'est celle qui concerne la mise en scène de la vie quotidienne, c'est-à-dire la manière dont on joue, d'une certaine manière, dans nos relations sociales les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose sur lequel elle va beaucoup s'appuyer. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Alors, une fois qu'on a vu un peu qui était Harley Hochschild, je vais revenir avec vous sur la production scientifique de cette autrice, avant de passer à la traduction, puis au prix des sentiments. Elle a publié plusieurs ouvrages tout au long de sa carrière, et elle continue encore. Vous allez voir qu'elle en a encore publié un l'année dernière. Elle est très importante donc non seulement dans le champ de la sociologie des émotions, mais aussi dans la sociologie de la famille et du travail. Et comme je vous le disais, une de ses particularités, c'est de faire des livres grand public et qui sont souvent des succès éditoriaux, ce qui est quand même pas fréquent en sociologie, donc c'est à souligner. Donc, je vous le disais, le prix des sentiments, c'est 83. Son ouvrage suivant, c'est 89. Donc, aucun de ses ouvrages n'est traduit en français. C'est « The Second Shift, Working Families and the Revolution at Home ». Donc, « The Second Shift », on pourrait traduire ça par « La double journée ». C'est un ouvrage qui est vraiment, aux États-Unis, aussi important que « The Managed Hurt », parce que c'est l'ouvrage qui a posé ce concept de « Second Shift », donc de « double journée » en sociologie de la famille. Elle s'y intéresse à la répartition des tâches ménagères dans les couples hétérosexuels, en étudiant différents couples, donc par des entretiens, mais elle fait aussi des observations au domicile. Son but, en fait, on est dans les années 80, c'est d'interroger l'héritage d'une certaine vision du couple et des rapports de genre, selon laquelle l'homme devait travailler et la femme être au foyer. Donc là, je vous renvoie aux analyses de Parsons, Breadwinner, Cadiller, entre l'homme et la femme. Donc l'ouvrage vise à comprendre comment, dans une société où les femmes font des études et ont désormais un travail salarié, vu qu'on est dans les années 80, et où deux salaires sont nécessaires, les couples parviennent à gérer l'héritage d'une telle idéologie. Qu'est-ce que ça fait dans les années 80 d'avoir encore en tête cette image d'une mère parfaite qui s'occupe de ses enfants ? Et elle montre que ce sont principalement les femmes qui subissent cette idéologie, se sentant toujours responsables du foyer, alors même qu'elles ont un emploi du temps salarié. Ainsi, la révolution qui a libéré les femmes, qui aurait libéré les femmes, s'est en fait arrêtée aux portes du foyer. Elle explique que les femmes sont bien sorties du foyer, mais que les hommes n'y sont pas rentrés. Donc, là, on est en 89. Une dizaine d'années plus tard, elle publie un autre bouquin. Les livres sont en train de tourner, hein, comme ça, si vous voulez y jeter un œil. Elle publie un autre ouvrage qui s'appelle « The Time Binds, When Work Becomes Home and Home Becomes Work ». Là, ce à quoi elle s'intéresse, donc toujours dans la lignée de The Second Shift, c'est la conciliation entre travail et famille au sein d'une entreprise. C'est deux livres que j'aime beaucoup, hein, et The Time Binds, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle s'intéresse, elle prend une entreprise dans laquelle elle fait de l'observation, et elle va prendre, alors je ne sais plus, il y a une dizaine ou une douzaine ou une quinzaine de cas, donc de couples, qui travaillent dans cette, enfin, de personnes qui travaillent dans cette entreprise, depuis le patron jusqu'à l'ouvrier, et elle va interroger chaque échelon de l'entreprise sur ce que le travail dans cette entreprise fait à la vie personnelle. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment des différences et puis des choses qui ne changent pas. Ce qu'elle met à jour, c'est ce qu'on pourrait qualifier de tension temporelle, hein, time bind, dû au fait que le travail requiert de plus en plus d'investissement, un investissement qui se fait au détriment de la famille, celle-ci n'ayant, selon Horschild, aucune chance face aux stratégies du capitalisme. Et là, on peut penser à des choses qu'on voit passer régulièrement sur le fait que chez Google ou chez Facebook, il y a un pressing, un baby-foot et qu'on est vraiment bien au travail. Donc là, on voit les stratégies du capitalisme qui visent à rendre les gens plus productifs en les faisant se sentir mieux au travail et donc qu'ils aient moins envie de rentrer à la maison. Et ça crée ce qu'elle va appeler ce qu'on pourrait qualifier de triple journée. Elle va parler de third shift, à savoir un travail émotionnel. Donc cette troisième journée, c'est le travail émotionnel de culpabilisation qui va découler du fait de rester au travail et de vouloir s'investir plus dans son travail alors qu'on devrait se sentir mieux à la maison. Alors, je vais essayer d'être un peu plus rapide. « The Commercialization of Intimate Life », c'est un recueil de textes qui ont été écrits au cours de la vingtaine d'années précédentes. Donc là, c'est un peu plus compliqué d'en rendre compte parce que, du coup, c'est des textes un peu épars. Elle le publie en 2003 et la même année, elle dirige un autre ouvrage où il y a un texte important qui est aussi dans cet ouvrage-là. C'est le texte « Love and Gold ». Qui est un des rares textes d'Horschild qui est traduit en français, je vais y revenir. Et du coup, dans cet article, on voit à nouveau son enfance qui ressurgit parce qu'elle commence à s'intéresser aux domestiques. Et elle étudie en particulier les nannies, donc les nounous, qui viennent en particulier des Philippines, mais de toute l'Asie du Sud-Ouest, pour garder les petits Américains sur la côte californienne, quoi. Enfin, partout aux États-Unis, mais en l'occurrence, elle vient en Californie. Donc, et qui permettent aux femmes occidentales de faire fonctionner le système actuel en déléguant le travail domestique qui continue à leur incomber. Donc plus précisément, c'est sur ces femmes qui apportent du care, donc le fait de soutenir, de prendre soin de quelqu'un et de l'amour que son intérêt se porte. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans ses ouvrages précédents, elle restait dans la sphère occidentale. Et là, on a une vision mondialisée de ce travail émotionnel qui émerge et qui permet de mettre au jour de nouveaux enjeux. Ensuite, 10 ans plus tard, il y a un autre ouvrage qui s'appelle donc « The Outsourced Self ». Courage, on est presque au bout. Mais vous allez voir que tout prend sens parce que tout est intéressant par rapport à son travail. « Intimate Life in Market Times », donc 2012. Et ça, c'est un ouvrage qui est très intéressant aussi. « The outsource self », on pourrait le traduire par le « soi » ou le « moi » externalisé, donc l'externalisation de soi. Et ce qu'elle étudie là-dedans, c'est la diffusion de la commercialisation, non plus seulement des sentiments, mais de plein de choses qui nous sont intimes. Face à un problème personnel, elle part encore d'un problème personnel, ce qu'elle qualifie de « care crisis », donc une crise du « care », à savoir qu'elle a une tante donc, qui n'est plus autonome, qui vit sur la côte Est, qui refuse d'aller en maison de retraite et qui refuse que quelqu'un soit payé pour s'occuper d'elle parce que c'est le rôle de la famille. Le problème, c'est que la famille, c'est Harley Russell Horschel, qui est donc prof à Berkeley, où elle a son mari et ses deux fils. Donc, elle est un peu embêtée. Et à partir de là, elle commence à s'interroger sur la frontière du marché. C'est quoi le marché du soin? C'est quoi le marché de l'amour? Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Et pourquoi est-ce que ça s'étend? Et donc, c'est vraiment un ouvrage qui est très facile à lire, parce que chaque chapitre est consacré à un des éléments de ce marché. Ça va du wedding planner au coach de vie, en passant par les mères porteuses, les nounous, les organisateurs d'anniversaires, etc. Donc là, elle continue vraiment quelque chose qu'elle avait commencé dans Le prix des sentiments. Et son dernier ouvrage, alors ça, je passe très rapidement parce que je ne l'ai pas lu, c'est sorti l'année dernière, Strangers in Their Own Land. Et en fait, c'est le fruit d'une enquête qui a duré 5 ans parmi une communauté d'Américains blancs en Louisiane, où elle cherchait à comprendre le succès du Tea Party. Et il est sorti avant l'élection de Donald Trump et il a été réédité avec une nouvelle préface après que Donald Trump ait été élu, parce que c'est exactement là-dessus qu'elle revient, sur les Américains blancs de classe populaire ou moyenne qui se sentent des étrangers dans leur propre pays par rapport aux immigrés, si vous voulez, et par rapport aux populations racisées. Voilà, donc cela, pour le coup, je passe plus rapidement. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de sa carrière et des sujets qu'elle a pu toucher. Mais ce qui est intéressant avec Horschel, c'est qu'elle a véritablement créé un champ sociologique et que donc il y a eu beaucoup de travaux qui se sont inspirés d'elle. Alors je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce serait infini, mais je vais vous donner juste quelques références, si ça vous intéresse, d'ouvrages ou d'articles qui font un point là-dessus. Le premier, dès 1999, il y a deux autrices qui publient un article qui s'appelle « Emotional Labor Since the Man at Heart », donc le travail émotionnel depuis la parution du prix des sentiments. Donc là, ça permet d'aller voir un peu ce qui s'est fait depuis. Ensuite, en 2011, il y a un ouvrage sur, au cœur de du travail et de la famille, discussion des idées d'Harley Horschel, qui est publié, et deux ans plus tard, il y a encore un autre ouvrage, Pathways to Empathy, qui revient à nouveau sur le travail émotionnel et les apports d'Harley Horschel. Donc, ce qu'il faut souligner, et une chercheuse qui s'appelle Amy Wharton le fait en 2011 dans un article qui s'appelle justement « La sociologie d'Harley Horschel », c'est que le fait qu'il y ait eu cette postérité-là, ça a aussi été encouragé par Horschel. Ce qu'écrit Amy Wharton, c'est que généralement, on mesure de manière quantitative l'influence académique. Par exemple, avec l'impact factor ou le fait de compter le nombre de publications, le nombre de fois où les publications sont citées. Et elle dit, même si Horschel a des scores stratosphériques en utilisant ces critères-là, elle nous dirait elle-même que c'est seulement une part de la question et que l'influence, elle est aussi relationnelle, interactive et qu'elle a une charge émotionnelle et que ce qui est à la base donc, de l'ouvrage dont je vous ai montré la couverture, c'est justement la reconnaissance de cela. Ce que cet ouvrage montre là, c'est un aspect moins évident à voir de la carrière d'Horschel, à savoir le fait qu'elle se soit beaucoup impliquée dans le fait d'encourager, d'aider ses étudiants qui ont été inspirés par ses idées. Et elle décrit ainsi son enseignement comme une chasse au trésor collaborative, où son travail à elle, c'est de trouver et de montrer du doigt les problèmes et d'aider les étudiants à aller les déterrer eux-mêmes. Donc on voit qu'il y a quand même cette question de la transmission qui est très importante chez Harley Horschel. Donc je m'arrête là pour cette question de qui est Harley Horschel, pour en venir de manière un peu plus précise sur cet ouvrage-là. Donc, pourquoi traduire The Man at Heart en 2017? Alors, sachant que je vous dis en 2017, en vrai, ça fait quand même quelques années qu'on est dessus. Hein. On n'a pas fait ça en janvier-février pour la parution en mars. C'est paru en 2017. D'abord, une première chose, c'est qu'on est 34 ans plus tard, donc ça a mis énormément de temps à être traduit, et que ça, c'est une spécificité de la France, c'est-à-dire qu'on est très, 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 très mauvais pour traduire les textes fondamentaux qui sont anglophones, déjà anglophones, mais alors le reste, c'est pire. Pour vous donner deux autres exemples, Judith Butler, on a attendu 16 ans à la traduction de Troubles dans le genre. Raewyn Connell, qui est une spécialiste des masculinités, c'est près de 20 ans après qu'on a eu une des traductions françaises. Donc Harley Horschel n'est pas la seule à avoir mis du temps à être traduite. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Et là aussi, très rapidement, il existait quelques travaux d'Horschel traduits en français. Celui qui a sans doute été le plus lu, c'est un article qui revenait sur justement les concepts centraux d'Horschel, donc travail émotionnel, règles de sentiment et structure sociale. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est paru donc, dans un numéro de revue consacré aux émotions. Et on ne sait pas qui a traduit cet article-là, et la traduction est très très littérale. C'est-à-dire qu'il y a des phrases où c'est vraiment un peu compliqué de comprendre. Donc bon. Ensuite, l'article dont je vous parlais tout à l'heure sur les nannies philippines, Love and Gold, lui, il est paru dans Nouvelles questions féminines, et il y a un très court entretien avec Horschel d'après. Mais vous voyez, on est déjà en 2004, hein, là aussi. Il y a plus récemment, en 2009, un nouvel article qui a été traduit, où là, donc marché, signification, émotion, louer une maman et autres services à la personne. Donc vous voyez que là, on retrouve ce que je vous disais sur l'externalisation de choses personnelles. Et il y a David Alice qui revient ensuite sur travail émotionnel, dissonance émotionnelle, contrefaçon de l'intimité, 25 ans après la publication de Malachi Hirt. Donc il fait un point en français là-dessus. Et la dernière chose qu'on peut trouver traduite d'Horschel, à ma connaissance, c'est l'ouvrage qu'elle a sorti, enfin qu'elle a co-dirigé en 2013 avec Carol Gilligan et Joan Tronto, qui sont donc des spécialistes du CARE, et où il y a un de ses articles, Éthique du CARE et capitalisme émotionnel. Mais en attendant, on n'avait toujours pas de traduction de The Manage Hurt. Donc comment est-ce que ça s'est fait, cette décision de traduire cet ouvrage-là en particulier ? D'abord, il y a eu un projet de traduction qui a été initié par Bernard Lahire, qui est le directeur de la collection Laboratoire des sciences sociales, dans lequel l'ouvrage est publié. Donc, il voulait faire traduire Arlie Horschel, et il avait réussi à convaincre La Découverte de traduire Arlie Horschel. Donc, ce qu'ils nous ont demandé, à Salomé et à moi, c'est de faire une sélection de textes, une sélection d'articles à publier, potentiellement à partir de l'ouvrage d'articles que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et on a commencé donc à lire ce qu'on n'avait pas lu, à regarder de plus près la collection d'articles. Et plus on avançait, plus il nous semblait que en fait, c'était quand même pas ça l'urgence, et que l'urgence, c'était peut-être de traduire la base de la base. Donc on en a pas mal discuté avec Bernard Lahire, qui était d'accord avec nous et qui a essayé de faire remonter ce choix-là à l'éditeur. On a pas mal discuté avec l'éditeur et je pense que Bernard Lahire s'est pas mal battu pour que ce soit cet ouvrage-là qui soit traduit parce qu'ils étaient vraiment contre, parce que c'était trop daté. C'est sûr que quand on attend 34 ans pour le traduire, il y a un moment, ça devient daté. Mais en attendant, ça pose quand même les bases de sa sociologie et finalement, ils avaient peur du coup que ça se vende pas, hein, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. Finalement, on a réussi à avoir gain de cause. Alors, je sais pas du tout si ça se vend. J'ai pas de... Mais moi, je suis très contente que ce soit celui-là qui a été traduit. Ouais. Le choix d'un ouvrage fondateur. Et je pense que c'est important pour la réception d'Horschel en France parce que ça permet justement, comme c'est ce que j'essayais de vous montrer dans la première partie, que c'est à partir de cet ouvrage-là qu'on peut comprendre la suite et comment elle s'est intéressée au reste de ce qui a fait sa sociologie. Voilà pour cette première partie. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, cet ouvrage-là, il est en soi, déjà, il est très intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, ça, je veux juste le noter avant de commencer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a que les textes d'escorte sont très nombreux. Il y a deux préfaces, il y a une postface, il y a quatre annexes. Donc, ça permet vraiment... Donc, il y a la préface à l'édition originale, une postface à l'édition de 2003, une préface à l'édition de 2012 et une annexe, enfin, et puis des annexes théoriques. Donc, ça permet vraiment d'avoir des points de vue intéressants sur le livre. Le livre, ensuite, en lui-même, il est divisé en deux parties, la vie privée d'abord, puis la vie publique ensuite, qu'on s'intéresse au travail émotionnel dans ces deux sphères-là. Sur quoi elle s'appuie ? Alors, elle s'appuie d'abord sur des questionnaires qu'elle a passés auprès de ses étudiants, ce qui lui permet d'avoir des exemples de la vie quotidienne en termes de travail émotionnel, mais aussi, c'est pour ça que le livre est connu, hein, sur une enquête ethnographique auprès d'aspirantes hôtesses de l'air et de celles et ceux qui les encadrent, ainsi qu'auprès d'agents de recouvrement. Ça, on le sait moins, mais il y a aussi un chapitre là-dessus. Donc, à partir de ces différentes observations, elle va interroger un problème central. Que se passe-t-il lorsque nous ne ressentons pas les émotions que nous devrions ressentir ? Et comment et pourquoi mettre en adéquation les sentiments que nous ressentons et ceux qui sont attendus de nous. Donc pour résoudre ce problème-là, elle s'appuie sur différentes situations. Et la plus connue, elle concerne donc les hôtesses de l'air, dont on attend qu'elles soient toujours souriantes. Mais attention, ce qu'on attend des hôtesses de l'air, ce n'est pas juste un sourire. C'est un vrai sourire et pas un sourire de façade. C'est même le slogan de la Pacific Southwest Airlines, « Our smiles aren't just painted on ». Alors, je ne sais plus comment on l'a traduit, mais je crois que c'est « Nos sourires ne sont pas que de façade ». Et là, vous voyez sur la slide qu'il y a un petit trait rouge en bas, qui est le sourire qui est peint sur les avions PSA. Et du coup, le slogan, c'est de dire « Sur les avions, c'est juste peint, mais sur nos hôtesses, c'est réel ». Donc, elle s'interroge sur... des situations de la vie quotidienne aussi. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être triste à un enterrement? Est-ce qu'on a le droit de ne pas être extrêmement heureuse le jour de son propre mariage? Et elle se demande alors, est-ce que c'est possible de modifier ses sentiments pour avoir l'air plus heureuse, plus triste, ou, dans le cas des agents de recouvrement, plus agressif? Donc, ce qu'on voit déjà dans les différentes situations que je vous ai décrites, c'est qu'il y a deux types de mise en conformité de ses sentiments avec ce que l'on pense devoir ressentir. D'une part, ce que l'on pense devoir ressentir parce qu'on est payé pour ça. Les usages commerciaux des sentiments. Devoir se sentir vraiment heureuse parce qu'on est hôtesse de l'air et qu'on doit montrer qu'on est contente d'être là. D'autre part, ce que l'on pense devoir ressentir parce que c'est la situation qui l'exige ou notre relation avec l'autre personne qui l'exige. Donc les usages privés, cette fois-ci, des sentiments. Orshide utilise deux termes différents quand elle parle du travail émotionnel, qu'il s'agisse d'usages commerciaux ou privés. Quand elle parle de travail rémunéré, donc d'usages commerciaux, elle parle d'emotional labor. Quand elle parle de travail non rémunéré, elle parle d'emotional work. Et là, il y a eu un vrai enjeu de traduction pour nous, parce que le français ne distingue pas labor et work. Et donc ça, c'est la première chose, mais à la limite, on aurait pu essayer de trouver d'autres termes ou de formuler les choses autrement. Le problème qu'on a eu avec Salomé, c'est qu'on est 34 ans plus tard et que ça fait 34 ans qu'on emploie en français travail émotionnel de manière indifférenciée. Donc on a choisi de ne pas faire la différence parce qu'on ne pouvait pas la faire sans que les travaux des 34 dernières années deviennent plus compliqués à comprendre et à lire. Donc, comme je vous le disais, on peut se questionner sur l'origine de son intérêt pour ce problème. Donc, je vous avais expliqué le lien avec le fait qu'elle était fille d'ambassadeur, mais ce n'est pas la seule chose qui a joué. Elle l'explique elle-même, alors je vais la lire rapidement. Hein. Donc, elle était étudiante à Berkeley, elle a beaucoup lu Mills, et en particulier un ouvrage qui s'appelle « Les cols blancs », et dans lequel Mills explique que lorsque nous vendons notre personnalité pour vendre des biens ou des services, donc quand un vendeur fait semblant d'être sympa pour vous vendre quelque chose, nous nous engageons dans un processus de mise à distance de nous-mêmes, un processus de plus en plus commun parmi les travailleurs des systèmes capitalistes avancés. Donc ça lui semblait juste à Orshild, mais il manquait quelque chose. Selon elle, Mills semblait tenir pour acquis que pour vendre sa personnalité, il fallait simplement en avoir une. Cependant, le simple fait d'avoir une personnalité ne fait pas de quelqu'un un diplomate. De la même manière qu'avoir des muscles ne suffit pas à faire un athlète. Ça aide quand même. Ce qui manquait, c'était l'idée du travail émotionnel actif qui s'effectue dans l'acte de vente. Ce travail, me semblait-il, pouvait être une part d'un système émotionnel invisible, mais répondant à un schéma de fonctionnement spécifique, un système composé d'actes individuels, de travail émotionnel, de règles de sentiments socialement organisées et d'une grande variété d'échanges entre les individus. Donc, à partir de son expérience personnelle, mais aussi de la lecture de Mills, Orshild commence à s'interroger sur ce système au sein duquel le travail émotionnel trouve sa place. Mais pour comprendre ce système, il faut d'abord analyser et comprendre ce qu'est une émotion. Là aussi, alors là, ça a été moins un enjeu de traduction pour nous parce que il y a des auteurs, des autrices qui travaillent en sociologie des émotions et qui distinguent de manière très forte émotions et sentiments, en les définissant de manière différente. Ce n'est pas le cas d'Orshild, elle le précise même dans une note de bas de page en disant « pour moi, ce sera la même chose ». Ce qui nous a laissé une latitude assez large et assez agréable pour éviter les répétitions. Mais du coup, elle s'interroge sur ce qu'est une émotion. Et comment, nous disons souvent que nous essayons d'éprouver des sentiments, mais concrètement, comment cela se passe-t-il? Ça veut dire quoi éprouver un sentiment? Selon moi, les sentiments ne sont pas stockés à l'intérieur de nous, ils ne sont pas indépendants des actes de gestion qui s'appliquent à eux. L'acte d'entrer en contact avec ses émotions, celui d'essayer de ressentir, peuvent faire partie d'un processus qui transforme ce avec quoi nous entrons en contact ou ce que nous gérons en un sentiment ou en une émotion. En gérant nos sentiments, nous contribuons en fait à leur création. Je vous cite des passages larges, alors j'espère que ce n'est pas trop rébarbatif. Comme je ne parle pas de mes travaux à moi, je me suis dit que vous faire entendre la voix d'Orschel, ce serait peut-être pas inintéressant. Donc bon, j'espère que c'était un bon choix. Donc je n'ai pas le temps de revenir vraiment en détail sur la définition théorique qu'Orschel donne du sentiment, parce qu'elle le définit de manière assez poussée. Mais je vais quand même essayer de le faire rapidement pour qu'on ait une idée de ce dont on parle, sachant que toujours dans cette optique de pouvoir être lu par le plus grand nombre, quand elle définit le sentiment, elle le fait en annexe. C'est l'annexe A de Darwin à Goffman, où elle réfléchit sur ce qu'est un sentiment. Donc pour vous le dire très vite, elle s'appuie sur trois courants théoriques. D'une part, ce qu'elle appelle les organicistes, comme Darwin, donc des penseurs selon lesquels l'émotion est un processus principalement biologique, hein, une forme de pulsion, qui existe a priori, sur laquelle on peut effectivement effectuer un travail de gestion, mais il s'applique qu'a posteriori. D'autre part, ce qu'elle appelle les interactionnistes, Mills ou Goffman, donc, selon lesquels l'émotion se crée dans la situation même et ne lui préexiste pas. Mais elle souligne bien que la perspective goffmanienne, elle est limitée, parce qu'elle étudie seulement la superficie des situations, sans chercher ce que celles-ci font aux acteurs à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Orschild, elle a ça de spécifique qu'elle utilise aussi des psychologues et pas juste des sociologues. Donc, voilà, ça c'est le deuxième aspect. Et enfin, elle s'appuie sur Freud en développant à toutes les émotions une idée qu'a Freud, à savoir que selon Freud, l'angoisse a une fonction de signal. Quand on ressent de la peur, il faut en tenir compte parce que ça nous prévient de quelque chose. Et elle dit que ça vaut pour toutes les émotions et qu'il faut tenir compte de cette fonction de signal. Donc, voilà, c'est ce qu'elle disait là. Donc maintenant, je vais essayer, maintenant qu'on a vu ça rapidement, de poser avec vous les éléments de base de la théorie d'Orschild. Donc, le premier élément important, c'est celui que je viens de dire, qui s'inspire de Freud, c'est que le sentiment est un indice. C'est quelque chose d'important dans sa théorie. Et c'est là qu'on voit apparaître un premier risque possible dans le fait d'essayer de contrôler ses sentiments. En altérant cette fonction de signal, en ne tenant pas compte du signal que nos sentiments nous envoient, ça peut nous être préjudiciable. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Mais ce travail que nous faisons sur nos sentiments, il faut d'abord en distinguer, on peut le définir en distinguant deux choses. Orschild, elle s'appuie sur un ouvrage de Stanislavski qui s'appelle « La formation de l'acteur ». C'est l'ouvrage qui a servi de base, par exemple, pour la méthode de l'acteur studio, pour ceux qui connaissent. Et Stanislavski, il distingue deux types de jeux. La première manière de jouer sur scène pour un acteur ou une actrice, c'est de modifier son apparence, sa gestuelle, son expression. Bref, jouer en surface. Mais Stanislavski, il dit que ça ne suffit pas, que ça ne fait pas un bon acteur ou une bonne actrice. La seconde manière, celle qu'il recommande, c'est plutôt d'exprimer un sentiment réel qui a été induit par l'individu lui-même, et il s'agit là d'un jeu en profondeur. Si vous voulez jouer un personnage qui a peur, il faut que vous ressentiez vraiment cette peur. Donc peut-être qu'il faut que vous pensiez à quelque chose qui vous fait peur et que vous vous disiez que c'est en train de vous arriver. Donc on le voit par exemple lorsque les individus font des efforts pour ressentir certaines choses. On voit des effets de ce jeu en profondeur. Quand vous dites « j'ai ravalé ma colère », vous faites pas seulement semblant de ne pas être en colère, vous essayez vraiment à l'intérieur de vous de ne plus ressentir cette colère. Je me suis forcée à m'amuser, je me suis forcée à être reconnaissant. Donc le travail émotionnel, finalement, c'est ce jeu en profondeur et non pas le jeu en surface. Mais on peut se demander, finalement, hors de la scène, pourquoi est-ce qu'on se forcerait à éprouver quelque chose ? Parce que sur scène, on n'a pas le choix. Si on est acteur ou actrice, c'est que on a choisi, hein, et on est là pour ça. Mais hors de la scène, pourquoi est-ce qu'on se forcerait à éprouver quelque chose ? L'exemple des hôtesses de l'air, ça nous permet de rentrer dans l'aspect commercial de ce jeu en profondeur, lorsque les sentiments sont traités comme une ressource pour faire de l'argent. Mais dans la vie privée, la vie quotidienne, on se force aussi régulièrement à éprouver des sentiments. Il s'agit non pas de respecter un contrat de travail, mais plutôt ce que l'autrice donc appelle des règles de sentiment. Ça, c'est un travail émotionnel. Règles de sentiment, c'est autre chose importante chez Orschild. Pour comprendre ce que sont ces règles, elle nous invite à nous concentrer sur la discordance que nous ressentons parfois entre ce que nous ressentons justement et ce que nous devrions ressentir. Par exemple, quelque chose de vraiment très bien arrive à un ami ou une amie à vous et vous n'arrivez pas à être content parce que vous êtes jaloux. À l'intérieur de vous-même, vous vous dites quand même « je devrais être content pour lui ou pour elle ». Quelqu'un à l'extérieur pourrait vous dire « tu devrais être content pour lui ou pour elle ». Et on voit donc là des sanctions, internes ou externes, qui nous rappellent à la règle de sentiment, à savoir être heureux pour ses amis. Cependant, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde n'est pas gardien ou gardienne des règles de sentiment de la même manière. Il y en a qui sont générales, mais les personnes qui peuvent définir les règles de sentiment, ce sont principalement les dépositaires de l'autorité, les parents par rapport à leurs enfants, les parents qui disent à leurs enfants « là, il ne faut pas avoir peur, là, tu devrais être content, là, tu as le droit d'être triste, c'est triste », etc. Ainsi, c'est dans les relations aux autres que le travail émotionnel est à comprendre. Donc finalement, Horschel, elle définit ce qu'elle appelle un système émotionnel intime et qui comprend trois éléments principaux. Les échanges sociaux dans lesquels se joue le travail émotionnel, ce travail émotionnel justement, et les règles de sentiment. Et concernant ces échanges sociaux, elle explique que se forcer à ressentir un sentiment pour se conformer à ce que quelqu'un attend de nous, c'est en fait d'une certaine manière lui rendre hommage. Même la culpabilité ressentie, si nous n'arrivons pas à être vraiment heureux pour quelqu'un, par exemple, correspond à un hommage, même s'il est minime. Par exemple, si un ami organise une fête en votre honneur et que vous êtes fatigué, qu'il n'a pas invité les bonnes personnes, que vous n'aimez pas le lieu qui a été choisi, le fait de faire semblant d'être heureux et de vous amuser est un hommage à cet ami, un don que vous faites en termes de sentiments pour honorer son amitié et donc une forme de travail émotionnel. Mais dans cet échange, le statut des deux parties est à prendre en compte. Je vais accélérer un petit peu, parce que lorsque l'un des deux individus a un statut moins élevé, les deux parties acceptent généralement qu'il apporte une contribution plus importante. Et en effet, avoir un statut plus élevé permet de revendiquer davantage. Là, elle donne l'exemple des domestiques et des femmes. Les sourires encourageants, l'écoute attentive, le rire approbateur, les commentaires qui expriment la validation, l'admiration ou l'intérêt, ça en vient à paraître normal de la part des domestiques et des femmes qui sont donc dans des positions subordonnées. Et ce comportement semble alors ancré dans la personnalité plutôt qu'inhérente au type d'échange auquel participent généralement les individus de statut inférieur. Alors que chez les hommes, cette absence de sourire, elle est à comprendre, elle est vue avec admiration parce qu'on la comprend comme une expression positive d'une forme de machisme. Donc, si cette inégalité elle est à prendre en compte dans la vie privée, elle est exacerbée dans le monde du travail où les échanges sociaux inégaux sont la règle et où se voir manquer de respect ou subir la colère d'un client font partie de la tâche d'un individu. Donc, c'est maintenant à la partie commerciale, donc publique, que je vais m'intéresser pour terminer. Si on reprend la catégorie de jeu en surface et de jeu en profondeur, on peut se demander duquel relève le travail des hôtesses de l'air. Après tout, pourquoi est-ce qu'on parle de travail émotionnel alors qu'elles ont juste à faire semblant de sourire ? Le problème, c'est que ce que montre Horschel, c'est que si on fait seulement semblant, eh ben, ça pose problème parce que c'est très difficile à tenir sur le long terme. Elle explique ce qui est vendu, c'est certes seulement l'affichage, un display, mais à long terme, un lien vient à exister entre celui-ci et les émotions. Une séparation de l'affichage et des sentiments est difficile à maintenir sur de longues périodes. Un principe de dissonance émotive, analogue au principe de dissonance cognitive, est à l'œuvre. Sur le long terme, maintenir une différence entre ressentir et faire semblant de ressentir engendre de la tension. Donc, on essaye de réduire cette tension en faisant plutôt du jeu en profondeur, plutôt que de passer des heures à faire semblant d'être heureux. Si on est vraiment heureux, bah, c'est quand même plus facile, quoi. Donc, dans le cas des hôtesses de l'air, c'est bien un jeu en profondeur qu'il s'agit. Mais, ça je vais passer, elles montrent que c'est vraiment au cœur de leur formation, hein. Mais que, par exemple, toute leur formation, elle est centrée sur le fait de réussir à gérer la colère des passagers sans s'interroger sur les raisons de cette colère. Et ce que montre Horschel à partir de son étude à la fin des années 70, c'est que les raisons de cette colère, c'est quoi ? C'est qu'il y a une accélération de la cadence de l'industrie aérienne depuis la crise économique et que finalement, si les passagers sont en colère, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'hôtesses, donc le service est beaucoup moins bon et donc c'est un problème plus général et ce n'est pas juste l'hôtesse de l'air le problème. Donc si on réglait le problème plus général, au lieu d'apprendre aux hôtesses à juste réprimer leurs sentiments et gérer les passagers, ça irait peut-être mieux. Je vous le fais vite, hein. Le terme qu'Horschild utilise pour désigner ce phénomène que doivent accomplir les hôtesses de l'air pour assurer aux clients un service de qualité, c'est celui de transmutation. Donc, elle dit qu'on a parfois besoin de mots pompeux pour définir un modèle cohérent à partir d'occurrences. Ici, il s'agira de transmutation. Lorsque je parle de transmutation d'un système émotionnel, j'entends désigner un lien entre un acte privé, comme le fait d'essayer d'apprécier une soirée, et un acte public, comme le fait de mobiliser sa bonne humeur pour un client. Donc, voilà, transmutation du système émotionnel. Le travail émotionnel devient alors un acte public, un acte commercial, et les règles de sentiment sont énoncées par la compagnie, et les échanges sociaux sont hiérarchisés. Donc ce que le problème qu'Orchel va mettre à jour dans cet ouvrage, c'est que les conditions de travail actuelles ne permettent plus à cette transmutation de réussir. Le rythme étant devenu inhumain, les hôtesses elles ont réduit leur travail émotionnel et elles se sont détachées de celui-ci. Se pose alors la question de la gestion de ces deux facettes différentes de la personnalité, de ces deux moi de l'hôtesse, son moi véritable et celui qu'elle affiche. Parce que finalement, lorsque les sentiments sont commercialisés avec succès, l'employée elle ne se sent pas fausse ou étrangère, elle se sent d'une manière ou d'une autre satisfaite par le service personnel qu'elle a fourni. Le jeu en profondeur aide à cela et n'oblige pas à s'éloigner de soi-même. Mais lorsque la marchandisation des sentiments en tant que processus général se désagrège en des éléments distincts, l'affichage devient creux, le travail émotionnel disparaît, et donc la tâche consiste à dissimuler l'échec de la transmutation. Donc... Orchild cherche alors à déterminer quels sont les emplois affectés par ce problème. Les hôtesses ne sont pas les seules à faire un travail émotionnel. Hein. On peut bien sûr penser aux vendeurs, aux vendeuses, aux infirmières, etc. Mais, bref, à toutes celles et à ceux qui fournissent des services et du care. Mais elle s'intéresse aussi au revers de la médaille. Celles ou plutôt ceux, car c'est cette fois-ci principalement d'hommes qu'il s'agit, qui cherchent plutôt à diminuer et non à mettre en valeur leurs interlocuteurs. Par exemple, les agents de recouvrement, dont le travail est d'appeler les personnes qui ont des dettes pour les forcer à rendre l'argent. Donc eux aussi suivent des règles de sentiment, mais elles encouragent plutôt la méfiance, l'agressivité envers les clients. Ce matin d'ailleurs, j'étais sur Facebook, et il y a une nouvelle BD de la dessinatrice Emma qui est parue, et c'est intéressant parce qu'il y a deux cases qui rendent vraiment compte de cette différence genrée. Elle explique que le contrôle social de nos émotions commence dès l'enfance. Chez les petits garçons, l'agressivité est très tôt considérée comme normale. Elle fait partie des qualités vues comme nécessaires pour devenir un homme. C'est bien, c'est un petit gars. Alors que chez les petites filles, il n'y a pas ce problème, car chez elles, on contrôle très tôt les manifestations d'agressivité. Donc on voit ici la création de certaines émotions qui vont ensuite pouvoir être marchandisées et utilisées par le capitalisme, les industries. Et entre ces deux extrêmes, Orchel donne une définition des métiers qui requièrent du travail émotionnel. Il y a trois critères. Premièrement, ils doivent placer l'employé au contact, face à face ou par téléphone d'un public. Deuxièmement, le contraindre à produire un état émotionnel chez un tiers, de la reconnaissance ou de la crainte, par exemple. Et troisièmement, autoriser l'employeur, à travers la formation et la supervision, à exercer un certain contrôle sur les activités émotionnelles des employés. Donc, Orchel explique bien que tous les individus n'ont pas la même probabilité de retrouver un emploi, de trouver un emploi nécessitant, enfin d'être d'occuper, pardon, un emploi nécessitant du travail émotionnel. Selon elle, les personnes issues de classe moyenne ont plus de chances d'occuper un tel emploi que celles issues de classe populaire. Je vais passer parce que j'ai plus le temps, mais elle explique ça par la socialisation primaire, à savoir que à partir des travaux du sociolinguiste Basil Bernstein, à savoir que dans les classes moyennes, on explique plus aux enfants pourquoi est-ce que, par exemple, va embrasser ton grand-père parce que ça lui fait plaisir, et pas, comme dans les classes plus populaires, va embrasser ton grand-père parce que c'est comme ça. Ça, c'est vraiment un aspect du travail d'Orchel qui est daté. Hein. Et c'est là qu'on voit que la traduction, l'ouvrage date d'il y a 34 ans, parce qu'on a vu aujourd'hui vraiment une diffusion des emplois de service et donc du travail émotionnel dans les couches sociales, les couches populaires. Et il y a vraiment une déqualification de ce travail-là, ce qui n'était pas le cas il y a 34 ans. Un autre aspect qui, lui, n'est pas daté, ça tient dans le fait, souligné par Orchel, que le travail émotionnel, il est beaucoup plus effectué par les femmes que par les hommes. Et là aussi, je passe rapidement, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la question du genre du travail émotionnel. Et ça, pour le coup, c'est très intéressant dans cet ouvrage-là, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses qui développent ça de manière encore plus poussée, cette question du fait que c'est plutôt les femmes qui s'en occupent. Donc pour clore cette intervention, je vais clore avec la question qui, elle aussi, clôt l'ouvrage, celle de l'authenticité. En effet, le fait de se distancier du moi que l'on joue au travail est une manière pour beaucoup d'employés d'éviter le burn-out. On fait vraiment une partition entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent. Mais cela amène aussi le risque de s'interroger sur l'authenticité de soi-même ou du service qui est rendu. S'éloigner de ce que l'on montre, de ce que l'on ressent, de ce dont les sentiments peuvent nous avertir, hein, on retrouve la fonction d'indice, n'est pas simplement un danger professionnel encouru par une minorité, c'est un danger qui s'est installé durablement dans la culture, comme quelque chose qui est toujours susceptible d'advenir. Nous tous, qui connaissons indirectement la marchandisation des sentiments, comme témoins, comme clients, comme critiques, nous sommes devenus capables de reconnaître et de déprécier un sentiment marchandisé. Oh, ils doivent être aimables, c'est leur boulot. Cela nous permet de dénicher les derniers gestes relevant véritablement donc, d'un échange privé. Voilà, ce sourire était vrai, il était juste pour moi. Nous soustrayons la motivation commerciale et recueillons ce qu'il reste de personnel de façon détachée, presque automatique, tant la marchandisation des sentiments est devenue monnaie courante. Donc ce qu'il en résulte, c'est que la valeur que nous accordons désormais au naturel, à l'authentique, à la spontanéité, comme le montre par exemple la montée du développement personnel qui vise à mieux se connaître soi-même réellement, donc cette valeur-là, elle a beaucoup augmenté. Et dans notre système capitaliste, ce que montre Horschild, c'est qu'aller chercher toujours plus loin ce vrai moi devient alors un des buts des entreprises. Et comme elle le montrait déjà, les individus continuent d'aller toujours plus loin dans la distanciation avec eux-mêmes, dans la mesure où, dans le cadre de leur travail, ils doivent montrer des strates toujours plus profondes d'eux-mêmes. Merci.